Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Bon jeudi tout le monde, 8 octobre, édition de la Journée internationale de la vue pour ce Ça vaut le détour. On va causer aujourd'hui, entre autres, du bon pilote qui célèbre ses 40 ans, de Claudia Larochelle qui a accepté de jouer le rôle de porte-parole pour Vues et Voix. Également, on va causer rampes d'accès dans les prochaines secondes, des rampes amovibles et d'une rondelle. Ils ont eu pas mal de visibilité, ces gens de l'Université de Montréal. Les bouts de Montréal pour ce nouveau prototype de rondelle électronique. C'est fort chouette et pourquoi passer à côté? Alors, nous aussi, on va causer avec le professeur et le président, le hibou en chef. Mais d'abord, comme je le disais, rampes amovibles, rampes d'accès pour permettre à plus de commerçants de se rendre accessible, à tout le moins pour l'entrée du commerce et pour en parler. Omar Lacheb, Omar qui est président fondateur de l'OBNL J'accède Québec, créé il y a quoi, 3-4 ans, Omar? 3-4 mois? 3-4 c'est mois. Un projet presque estival.
Absolument. On a vu l'idée au mois de novembre et on a commencé à travailler depuis le printemps de cette année.
Et pendant que Rémi va juste venir rapprocher votre microphone pour faciliter la conversation, dire que c'est inspiré d'un modèle torontois, cette idée qui a déjà vu le jour, qui, semble-t-il, est tout de même assez bien reçue là-bas. 5 membres qui se sont greffés au projet, des rampes de couleurs. Quelles couleurs?
Des couleurs rouge, bleu, vert et jaune.
Donc, facilement identifiable pour les gens de basse vision, les personnes âgées et également, je remarque qu'il n'y a pas de blanc. Donc, pour l'hiver également, il y a un contraste intéressant.
Absolument. Et les rampes doivent être amovibles et doivent être à l'intérieur du commerce. Donc, elles ne doivent pas absolument rester à l'extérieur du commerce. Seulement quand la personne en a besoin, le commerçant va la déployer.
Est-ce que je lis bien que pour le moment, il y a une vingtaine de rampes qui sont effectives?
En fait, il y a 6 rampes à la place de Saint-Hubert. Il va y avoir 14 rampes cette fin de semaine, qui vont être sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Notre-Dame-Ouest et un peu partout à Montréal.
Et lorsque vous dites 6 sur le plateau, ce n'est pas nécessairement sur le plateau au sens large de sur le plateau. Sur la plaza, ce n'est pas au... C'est vraiment attitré à 6 commerces. On ne va pas commencer à prêter la rampe, là.
Non, absolument okay. pas. Non.
Bon, commençons par le commencement. Est-ce que le dénivelé de la rampe est réglementaire, est adéquat?
Alors, je voudrais juste commencer par dire que le projet J'accède Québec ou Une marche à la fois, c'est un projet inspiré d'une initiative à Toronto, comme vous l'avez dit. Et les rampes, faut le dire, ne sont pas une solution parfaite, ne sont pas une solution d'accessibilité universelle comme on s'entend là-dessus. C'est des rampes, c'est une solution imparfaite. Ça nous permet de rentrer dans le magasin, ça permet aux commerçants, quand la personne en a besoin, de déployer la rampe et d'aider la personne à y rentrer. Donc non, ils ne sont pas... ils ne respectent pas les mesures de l'accessibilité universelle.
Le 1 sur 12, là... OK. Est-ce que, donc, ça peut causer des ennuis à, je sais pas, moi, comme vous, vous avez un fauteuil motorisé ou...
J'ai un fauteuil manuel.
Manuel. Est-ce que, pour certaines personnes qui sont peut-être, disons, moins en forme, le dénivelé représente un défi particulier ou...
Non.
Tout le monde devrait être capable?
Non, tout le monde devrait être capable et les commerçants doivent les aider. Ces rampes-là ont fait leur... leurs tests à Toronto, ils sont dans plus que 600 commerces à Toronto et ailleurs au Canada. Donc, ça fonctionne bien.
Ça vous coûte combien parce que vous êtes une OBNL? Est-ce que vous les louez? Est-ce que vous les vendez?
On veut les donner gratuitement. On veut s'inspirer du même modèle qu'à Toronto. On veut que les compagnies privées nous aident, des corporations nous aident à assumer les coûts. Une rampe ne coûte dans 80-90 $.
Ça prend combien de temps à confectionner si quelqu'un en demande une?
Ça dépend de la commande parce qu'on veut faire une vingtaine ou une trentaine de rampes à chaque fois. On le fait dans un atelier où des jeunes en difficulté apprennent le métier d'ébénisterie. C'est dans un organisme que j'aimerais citer quand même parce qu'ils nous ont beaucoup aidés et on est fiers d'être partenaires avec eux. Ça s'appelle le Bouleau Vert. Donc, dépendamment de la disponibilité des stagiaires, ça peut prendre 3 à 4 semaines pour fabriquer une vingtaine de rampes.
Les matériaux utilisés?
C'est du cèdre
OK.
et c'est du plywood. Donc, le cèdre est très résistant à l'eau et léger. Donc, c'est les deux matériaux qui sont utilisés.
Et c'est quand même assez robuste parce que, bon, avec un fauteuil motorisé, tu peux avoir du 5, 6, 700 livres parfois, là.
Ah oui, absolument. C'est du matériel très robuste et puis on les a testées. Elles sont très robustes et sécuritaires.
Il y a des inquiétudes, à savoir au niveau dignité de la personne. Est-ce que je vais être obligé de cogner à la vitrine? Est-ce que je vais être obligé d'appeler avant? Est-ce que ça enlève toute spontanéité?
Oui, c'est vrai, ça c'est une des contraintes. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est pas une solution parfaite. Une solution parfaite serait l'accessibilité universelle, serait une porte automatique, puis on s'entend là-dessus. On n'est pas là encore. Et les commerces privés, y a un vide juridique, hein, on s'entend là-dessus, pour dire aux commerçants privés d'être accessibles et d'adopter le concept d'accessibilité universelle. Donc, oui, il y a des contraintes. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner aux commerçants des étiquettes. Ça va être un signe très, comment dire, visible sur la vitre avec le numéro de téléphone où la personne peut appeler. Et on ambitionne pour l'année prochaine d'avoir une application de téléphone intelligent. On aimerait avoir la liste de tous les commerçants accessibles avec une rampe ou accessibles universellement.
Ça veut dire que chaque commerce devra avoir son propre autocollant parce que le numéro de téléphone va changer. On ne peut pas faire 1 000 autocollants, là.
Non, absolument. Et puis, c'est ça, bizarrement, on va avoir 1 000 autocollants pour commencer, où il va avoir un espace où chaque
OK.
commerçant va
Va
mettre
écrire à
son
la main
numéro de téléphone à la main.
ou avec
Absolument.
une imprimante ou
Oui,
quelque chose
absolument.
pour mettre ça. Parce que ce que l'on souhaite finalement, c'est de la dignité. Et ça, je suis certain que vous-même, utilisateur de fauteuil roulant, vous le comprenez. Et il y a des gens qui soulignent la crainte, bon, la fameuse phrase, il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. Hein? Souvent, les gens commencent par une mesure temporaire. Et finalement, ça reste temporaire pendant 15 ans parce qu'on se dit toujours, bon, pour l'instant, ça fait l'affaire. Je me souviens de l'épisode des ascenseurs dans le métro de Montréal où le ministre avait suggéré qu'on installe des monte-charges, ça irait plus vite, ça coûterait moins cher, et le milieu a refusé, disant, on ne veut pas être dans un monte-charge. Alors, est-ce que il n'y a pas cette crainte-là? Et dans les autres villes, Omar, est-ce que le temporaire est devenu permanent.
Oui, je suis d'accord et on veut pas ça. On est d'accord pour la dignité. Puis en tant que personne à mobilité réduite, je vous dirais, quand on fait le tour comme bénévole pour demander aux commerçants d'avoir une rampe, c'est difficile d'accéder aux commerçants. Donc oui, il y a ce côté-là, mais on veut une solution maintenant. Si on me donne le choix d'accéder à un commerce présentement ou d'attendre qu'il soit universellement accessible, mais je choisirais de rentrer au commerce maintenant, quitte à le sensibiliser, à adopter le concept de l'accessibilité universelle.
Est-ce qu'avec la livraison de la rampe, il y a peut-être un petit examen de la boutique pour dire, OK, maintenant on vous aide, mais les allées sont tellement étroites, je pense aux pharmacies, là, où
Oui.
sont toujours très encombrées, que finalement, il va quand même être presque obligé de demander de l'aide et de rester à l'avant du magasin. Est-ce que vous allez sensibiliser le commerçant, pas juste à l'entrée, mais à l'ensemble de l'œuvre?
Absolument,
OK.
absolument. On va avoir une liste de suggestions. Ça se fait déjà en France. On a vu une association qui le fait en France. Ils ont une liste où ils disent aux commerçants, voilà ce qui devrait être fait à l'intérieur du commerce. Et ça serait la deuxième étape du projet.
Ouais. Votre plan d'affaires, parce que là, bon, environ ben, une quinzaine de rampes vont être distribuées gratuitement cette fin de semaine sur le plateau. Ça vous coûte des sous, ça prend du financement.
Absolument. Absolument, ça prend beaucoup de sous. Et ce n'est pas juste la fabrication des rampes, c'est tout le côté communication, bénévole, distribution des rampes et tout ça. Donc oui, Et on aimerait que les compagnies privées, les corporations nous aident, comme ça a été fait dans d'autres villes et ça a bien marché.
Comment déterminez-vous les avenues ou rues que vous sensibilisez avec vos bénévoles qui font du porte-à-porte? Est-ce qu'on y va arrondissement par arrondissement? Est-ce que chacun y va dans son coin de résidentiel où il demeure?
On essaie d'aller en groupe. Moi, personnellement, j'ai essayé d'aller dans mon quartier où j'habite à Notre-Dame-Ouest et ça a bien marché. On va avoir 7 commerçants qui vont avoir une rampe, mais les bénévoles se réunissent. Ils vont, par exemple, à la Plaza Saint-Hubert, ils vont aller aux promenades à Verdun, à la rue Wellington. Donc, on essaie d'aller dans des places où les personnes à mobilité réduite vi les visitent souvent. Et ce que j'aimerais aussi qu'on fasse, c'est que les personnes à mobilité réduite qui connaissent des commerces dans leur quartier où ils voudraient aller peuvent aller sur notre page Facebook et nous les recommander, nous suggérer, et nous, on ira les contacter.
Vous espérez rester en affaires combien de temps? Est-ce que ça va être comme le Bloc québécois où on était là pour une élection, finalement, 30 ans plus tard, on offre encore du temporaire? Est-ce qu'on se dit, si on voit qu'éventuellement, on donne une raison à la société de ne pas évoluer dans le bon sens, on se retire? Est-ce qu'on a pensé à cette éventualité-là?
Moi, je pense que du moment où il va y avoir des lois qui obligent les commerces à être accessibles et qu'on va adopter le concept d'accessibilité universelle, qu'il y aura du financement pour aider les commerçants à devenir accessibles, les rangs perdront un peu de
Oui, ah, c'est clair.
leur. Mais pour l'instant, je pense qu'on a des centaines et des centaines de commerces à Montréal et dans d'autres villes au Québec, parce qu'on ambitionne d'aller dans d'autres villes au Québec. C'est pour ça qu'on a appelé ça J'accède Québec. Je pense que pour l'instant, on a un besoin qui est là et qu'on va continuer à le faire. On ambitionne à faire une cinquantaine de rampes cet été et on ambitionne d'avoir une 200 à 500 l'année prochaine et je pense que le potentiel est là.
Moi, ma crainte, je veux accéder à une clinique ou quelque chose comme ça, puis c'est parfait, je peux y entrer, mais la salle de bain n'est pas accessible. Puis c'est ce genre de truc-là. Tu sais, on peut rentrer au bar, puis on peut avoir une bière, mais on ne peut pas l'évacuer. Il y a des endroits où tu vas t'acheter un paquet de cigarettes, c'est parfait. Tu entres, tu sors, c'est réglé. Mais il y a d'autres endroits où on a besoin de plus que l'entrée. Et c'est juste ça. Je trouve l'idée fabuleuse si elle fonctionne et si les résultats sont ce qu'Accède Québec recherche, effectivement. Mais je pense qu'il faut rester vigilant là-dedans.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Je pense que le travail qu'on fait, c'est mieux de le faire à l'intérieur du commerce que de le faire de l'extérieur. Si on arrive à rentrer dans l'espace du commerçant et à montrer qu'on est des clients, c'est une décision d'affaires pour le commerçant, plus que sociale aussi, et que par la suite, on aura un pouvoir de dire, bah, écoutez, vos tables devraient être accessibles, vos toilettes devraient être accessibles. C'est là que le vrai travail commence. Je pense que la rampe, c'est juste un accès pour travailler de façon positive avec les commerçants et les sensibiliser.
On y va étape par étape, morceau par
Une
morceau.
marche à la fois.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Omar Lakhreb, président donc et fondateur de l'OBNL J'accède Québec. D'ailleurs, vous avez sûrement un site web, Omar? Je
Oui.
regarde ça ici, là. Allez-y donc. Ah,
J'accèdequebec.com.
ben, Colin, plus clair que ça. On aime ça. Merci beaucoup. On va
Merci à vous.
causer hockey et prototype de rondelles électroniques en cette journée internationale de la vue.
Prends des vacances en ambulance. J'ai besoin de soins à l'urgence. Car comme une bête, je faisais la fête. Et je me suis cassé la tête. Oh, un homme m'entend ce que c'est des hanches. Je dansais la danse, la négligence. Et la débauche m'a rendu gauche. Yo, fallu que je me repose. Mais je me suis pendu la figure.
Damien Robitaille sur Canal M et sur canalm.org, également sur le vuesetvoix.com avec son casse-tête tiré du premier album de M. Robitaille. On cherche toujours notre prof... OK, on cherche notre président des Hiboux, mais il est peut-être parti dîner parce que c'est l'heure du dîner. Sauf que les deux travaillent à l'Université du Québec à Montréal et le professeur, lui, semble-t-il, qui n'est pas en train de dîner. Frédéric, comment allez-vous, vous, M. Napguy?
Ça va très bien, merci de l'invitation.
Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, ceux qui veulent voir le prototype, on reçoit Frédéric la semaine prochaine à Ça me regarde. Donc, vous pourrez voir ça sur la table. Je la décompose et la recompose. Frédéric, aidez-nous un peu à comprendre. Est-ce que cette idée-là est venue, disons, au-dessus d'une pinte de blonde après un match de hockey?
J'aimerais bien que ça soit comme ça, mais c'est venu plutôt après une partie entre des employés de l'UQAM et les Hiboux de Montréal, qui, je pense, c'est au cours de l'hiver dernier. Puis M. Ouellet, qui est dans les Hiboux, travaillant à l'UQAM, m'a dit « Ben, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire à l'UQAM pour aller un peu plus loin technologiquement parlant au niveau d'une rondelle. » Parce que vous le savez, eux jouent avec une canne en métal avec des billes là, à l'intérieur, donc c'est pas très technologique. Hein. Donc, c'est comme ça que c'est venu, ça a vu le jour. Ils nous ont ensuite contactés, puis on a été très heureux d'embarquer dans le projet.
Ouais, c'est vrai que ça fait plutôt 1915 que 2015. Mais en même temps, la conserve nous a rendu de fiers services et ça coûte rien. Une fois qu'on l'a vidé, on s'en sert. Alors que là, on parle de prototypes, de laboratoires, d'heures de recherche et en plus, ben, de confection. Tout ça, ça monte à combien?
C'est clair que ça coûte des sous. Par contre, la fameuse canette, elle dure à peu près 15 minutes dans le jeu. Puis, on me dit que ça coûte quand même des sous au total à la fin de la partie pour avoir leur échantillonnage suffisant de canettes. Ouais. De notre côté, on essaie d'avoir quelque chose qui va être capable de durer pour au moins une à deux ou même trois parties de hockey complètes au lieu de juste 15 minutes. Puis, qui, on espère, on va pouvoir aller chercher un prix d'environ une cinquantaine de dollars. C'est quand même dispendieux, effectivement, mais considérant qu'on peut l'utiliser pour plusieurs parties, on pense que c'est quand même un bon rapport par rapport à la canette.
Ce qui est assez fabuleux là-dedans, et vive le cheap labor, c'est que vous avez mis certains de vos étudiants sur le dossier, donc c'est le genre, si tu veux tes crédits, il faut que tu travailles, mon pit.
Ben, écoutez, je pense que j'irai pas jusqu'à là parce que les étudiants, d'ailleurs, ils faisaient pas ça dans le cadre d'un cours. Ils faisaient vraiment ça dans le cadre d'une bonne action, si vous voulez. Là, je sais que ça a l'air un peu cliché de le dire comme ça, mais on leur a donné des bourses assez symboliques, bien sûr. Mais oui, on les a recrutés vraiment de façon volontaire, trouver des gens qui voulaient faire une bonne cause. D'ailleurs, moi, j'avais, comment on les a trouvés du côté microélectronique, les étudiants, c'est que j'avais un cours de projet de fin d'études et j'avais des étudiants qui allaient finir leur bac. Là, puis on a amené M. Ouellet à faire un petit discours pour présenter le projet, puis c'est des équipes volontaires qui ont entamé les premiers efforts là-dessus.
Est-ce que ce sont des gens qui aiment le hockey, des gens qui aiment l'électronique? C'était quoi le profil? Pas nécessairement recherché, mais qui se sont portés volontaires surtout?
Les étudiants du côté microélectronique, c'est vraiment des étudiants qui avaient une passion pour le hockey comme tel, mais surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui voulaient vraiment faire une différence dans la vie de ces hiboux-là.
Ouais.
Parce que, comme on disait, la canne, oui, elle a très bien servi, mais bon, elle va pas en ligne droite, elle fait pas de bruit dans les airs.
C'est vrai.
Quand elle bouge pas, elle fait pas de bruit. Donc, c'est un bon élément qui a fait son travail très bien dans les dernières plusieurs années, mais il y a toujours eu une certaine insatisfaction, puis les étudiants voulaient vraiment embarquer là-dedans, puis essayer de combler ça.
Et la raison pourquoi elle ne va pas en ligne droite et la raison pourquoi on est obligé de la remplacer aussi fréquemment, c'est évidemment que une fois qu'elle est endommagée, et ça c'est à peu près au deuxième coup que la canne reçoit, sa forme varie et là ça devient difficile de la contrôler. Et à un moment donné, elle est tellement cabossée qu'elle ne fait plus de bruit, elle ne résonne plus. L'aspect électronique, est-ce que vous avez été obligé d'approcher, que ce soit des manufacturiers, des compagnies, il a fallu ajouter d'autres partenaires dans le projet?
Au niveau microélectronique, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait toutes les expertises ici pour faire ça de A à Z. On a acheté, bien sûr, des composants commerciaux là pour mettre sur notre fameux circuit imprimé. Pour ceux qui se demandent un peu à la maison qu'est-ce qu'un circuit imprimé, ça ressemble beaucoup à un genre de petite plaquette où est-ce qu'on a des petits circuits électroniques qui sont soudés dessus. Donc, nous, on s'est occupé de faire la conception de ce circuit imprimé-là, puis d'acheter les composantes qui étaient requis, dont, par exemple, je vais vous donner un exemple, un accéléromètre qui est une un petit bidule qui détermine l'accélération de la rondelle en temps réel et qui permet à la rondelle de donner un feedback audio au joueur en temps réel de sa vitesse et donc d'essayer de faire mieux que la canne, finalement.
Est-ce que je comprends bien, Frédéric, si je dis que la rondelle émet un son, plus la rondelle, disons, monte, plus le son varie ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une modification du son pour aider la personne à comprendre la trajectoire?
Oui, c'est absolument ça. Je vais aller un petit peu dans le détail là-dessus. C'est qu'on a deux modes qui permettent à la rondelle d'avoir une intelligence, si vous voulez, sur sa trajectoire. Un, c'est l'accélération, comme je viens de le mentionner. Puis en plus, on a une autre petite puce électronique là-dedans qui détermine l'altitude de la rondelle. Donc, si la rondelle va très rapidement, elle va émettre un son légèrement différent. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment un... je suis pas très bon au mime audio, là, mais c'est un bip, 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 tel un détecteur de fumée, mais dépendamment de la vitesse de la rondelle, ce bip, bip, bip-là va augmenter de cadence ou diminuer de cadence. Puis, quand elle est en altitude, ce qu'on est en train présentement de concevoir, là, pour de finaliser, c'est que ce bip, bip-là, pour ne pas l'appeler autre chose, va être, par exemple, un double bip. Par exemple, bip, 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 bip. Okay. Là, j'ai l'air drôle à la maison, de mimer ça, là. C'est ce qu'on essaie d'avoir.
Le défi, maintenant, c'est la grosseur et peut-être le matériau et sa durabilité?
Oui, présentement, là, on a la partie microélectronique là est quasi terminée, est fonctionnelle, mais au niveau design de la coque de la rondelle, ce qui est son corps, si vous voulez, elle est un peu trop lourde encore. On veut avoir une masse d'à peu près 250 grammes, puis là, on est à peu près une fois et demie trop lourd. Donc ça, il faut trouver des matériaux un peu plus performants, un peu plus dispendieux. Puis on a c'est là qu'on va aller chercher des partenaires industriels incessamment là pour essayer d'améliorer cet aspect. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il y a des gens qui sont handicapés visuels, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de frapper fort sur une rondelle. Donc, elle doit être quand même assez robuste au niveau mécanique. Là.
De mémoire, la hauteur se veut environ le double de la hauteur d'une rondelle régulière. Pour son diamètre...
Au niveau du diamètre, présentement, on étudie différentes approches parce que, comme je vous le dis, là, on amène ça dans le jeu, puis les joueurs, c'est pas juste une question de fonctionnalité, ils veulent vraiment avoir un bon feeling de la rondelle. Ouais. Présentement, on est à peu près à 6 pouces. Puis on étudie une petite variation de ça, mais ça sera pas jamais, bien sûr, la taille d'une vraie rondelle, simplement parce que ça rendra le jeu un peu trop complexe pour les joueurs. Là.
On souhaite une standardisation de la rondelle. Parce que le jour où on va avoir une rondelle qui sera utilisée dans le monde, on va pouvoir vraiment rendre ce sport-là avec des compétitions internationales, avec une participation paralympique. Est-ce que vous vous sentez pressé, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui regardent et qui font des recherches similaires en Ontario, est-ce que c'est, disons, une course contre la montre pour être qui sera le premier, ou au contraire, on s'appelle puis on essaie de travailler ensemble pour s'aider?
Vous avez absolument raison. Il y a d'autres gens là, qui travaillent sur ce genre de système-là, mais on ne se parle pas. C'est pas une question qu'on veut pas se parler. C'est simplement des efforts qui ont un peu des naissances différentes un peu partout. Par contre, nous, on croit que ce qu'on a là, parce qu'on a un beau mariage de microélectronique et de design à l'UQAM, et c'est quelque chose qui est quand même difficile à répliquer ailleurs. Puis déjà au niveau design, je pense que la rondelle est assez avancée. Puis au niveau microélectronique, comme je vous disais, moi, je connais pas de rondelles qui ont les fonctionnalités que je vous ai décrites précédemment. temps. Donc, c'est pas nécessairement une course contre la montre, c'est plutôt une course contre arriver au but d'avoir quelque chose pour les hiboux, et puis on espère pour tous les autres joueurs. On vise pas rien de moins que les Paralympiques éventuellement.
L'avez-vous vu, vous, la rondelle ontarienne?
Oui, j'ai eu la chance de la regarder, mais très brièvement.
Avez-vous pu jouer avec un petit
non,
peu? Non, faire un lancer.
On ne l'avait pas sous la main.
Mais je sais qu'il y a des joueurs des hiboux qui l'ont essayé. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre prototype jusqu'à maintenant et le leur?
De mémoire, on a parlé de ça il y a un bon moment. Okay. Il me semble que le bruit n'était pas adéquat. Okay. Mais malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin parce que ça fait quand même un bout qu'on nous en avait parlé de cette rondelle-là.
Avez-vous un échéancier? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? C'est juste des produire ou on est vraiment encore à l'étape de chercher pour le volume puis sa robustesse?
Donc, je dirais au niveau microélectronique, on a fini, grosso modo. Puis au niveau du matériau puis de l'aspect de la coque, il en reste un petit peu. Mais on croit qu'on en a pour quelques mois au plus à cet aspect-là. Puis, dès maintenant, d'ailleurs, on va commencer à travailler avec un industriel qui va essayer d'amener ça au volume, au niveau de faire des moules pour les pièces de la rondelle, etc. Puis nous, notre but ultime pour l'instant, c'est qu'il va y avoir une partie de hockey entre les employés de l'UQAM encore une fois et les hiboux en février. Puis ce qu'on aimerait, ben, c'est que ce soit cette rondelle-là qui soit la rondelle de choix pour la partie.
Wow. Ben, je vous retiens pas plus longtemps. Il vous reste 4 mois. Merci beaucoup, Frédéric Nabki, qui est professeur département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal. Au retour, le bon pilote a 40 ans et Claudia Larochelle, nouvelle porte-parole chez Vues et Voix.
Vous écoutez Ça vaut le détour avec Luc Fortin et ses invités.
Oui, mes invités qui seront Claudia Larochelle et pour le moment John Gill. John qui est directeur de l'organisme Le Bon Pilote, déjà depuis 3 ans. Également à la mise en onde, lui on ne l'invite pas parce qu'il est toujours là, ponctuel, Rémi Hermoso à la recherche, Anne-Laure Janson. John Gill, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je dis vrai si je dis bon anniversaire? Ben pas à vous, mais à l'organisme. 40 ans?
Oui, c'est 40 ans, oui, ouais. Tout à fait. Ça remonte à 1975.
Et mon Dieu, ça c'est un nom du passé, Gilles Lafleur.
Oui.
Gilles qui est fondateur et qui reçoit donc encore des services.
De façon ponctuelle.
Oui, oui, oui. services qui sont maintenant des services d'accompagnement pour la personne à mobilité réduite et ou vision partielle?
C'est les deux, mais la priorité, c'est vraiment pour les gens qui ont un problème, une cécité, un problème de vision. Et ensuite, depuis 2012, on offre aussi un service d'accompagnement aux gens qui ont un problème de mobilité, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas le droit au service ou au transport adapté. Alors, quand on dit problème de mobilité, on pense à un problème physique, psychologique, un accompagnement vers l'hôpital pour... ça peut être pour en oncologie. Bref, ça, c'est assez varié. Mais la grande majorité de nos membres sont vraiment des gens qui ont un problème de vision.
Mais je reviens brièvement aux gens avec, disons, mobilité réduite. Mm-hmm. Si quelqu'un a un problème temporaire...
Oui.
Jambes brisées, des choses comme ça, et donc n'est pas admissible au transport adapté, peut-il profiter des services du bon pilote?
Tout à fait. Alors, c'est dans la mesure où ils sont référés par leur médecin, un CLSC, oui, ils peuvent demander au bon pilote, ils peuvent devenir membres, mais ils ont droit à nos services.
Quel type d'accompagnement? Est-ce que, bon, on a parlé d'accompagnement médicaux, est-ce que ça peut également aller jusqu'au loisir?
Ça peut aller jusqu'au loisir. L'objectif, c'est de rejoindre plus de jeunes. Alors, ça pourrait aller aussi vers les loisirs. En ce moment, c'est plus vers l'épicerie, le coiffeur, les rendez-vous chez le médecin. Ça peut être aussi de l'accompagnement, mais à la maison pour lire le courrier, par exemple.
OK. Mm-hmm. Magasinage, des fois, ça prend des bons yeux avec du goût.
Tout à fait.
Pour savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient peut-être un petit peu moins. Le territoire que vous couvrez, John?
C'est toute l'île de Montréal et une partie de la Montérégie, ce qui veut dire le Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert, Saint-Bruno.
Pourquoi pas Laval encore?
Pourquoi on a desservi Laval, aller jusqu'à un an et demi, c'est qu'on reçoit du financement de l'Agence de santé de Montréal et de l'Agence de santé de la Montérégie. Mmh. Et ensuite, Laval a décidé de mettre en place son propre système. Alors, on ne dessert plus le territoire de Laval.
Les accompagnateurs, accompagnatrices,
oui.
Évidemment, ils ont une formation. Quelle est-elle?
Ben, et ils ont... La principale, c'est le PDSB, qui, c'est le principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Et ça, c'est bon pour les membres et c'est bon aussi pour les employés, à savoir comment s'y prendre pour aider une personne âgée à sortir de la voiture, une personne qui tombe. Bref, c'est tout ce qui peut arriver dans le cadre d'une journée. Tous les problèmes. Alors ça, c'est offert par le gouvernement et la plupart de nos accompagnateurs ont suivi la formation. On a aussi beaucoup de documentation qui nous vient du Centre du droit des personnes handicapées, l'Arche. Alors ce sont des conseils pour interagir de la façon la mieux adaptée à la déficience de la personne. On a aussi tous les conseils concernant la déficience visuelle au Québec. Et ça, ça nous est fourni par le regroupement des aveugles et des amblyopes du Québec. Alors, c'est un peu...
Et ça pourrait représenter combien d'heures?
Vous dites de
formation?
De formation, ça varie. On regarde le PDSB, c'est 2 journées. Ensuite, c'est peut-être 4 journées au maximum. Mmh.
Comment le lien se fait? Est-ce que le membre peut choisir son accompagnateur si celui-ci est disponible, mais... Il y a toujours le risque que Chantal, qui est super gentille, soit super sollicitée, puis pendant ce temps-là, on oublie le bon cœur de Jérôme.
C'est qu'on encourage, c'est certain que certains de nos membres préfèrent être accompagnés par un accompagnateur versus un autre, mais on ne garantit pas, on écoute la demande. Mais on a quand même 500 membres, on fait plus de 3500 accompagnements par année, alors il est difficile pour nous de garantir la présence d'un accompagnateur pour une personne X. Mais par contre, on est à l'écoute. On est conscient du fait que à presque 70 % nos gens ont 70 ans et plus. Il y a beaucoup de dames seules. Alors, il y a tout le côté, tout le côté sécurité et confiance. Alors,
Les accompagnements peuvent durer combien de temps?
Ça dépend. Ça dépend d'où... Il ne faut pas oublier qu'on dessert un grand territoire. Alors, les accompagnateurs quittent leur résidence, doivent aller chercher une personne X à Anjou pour un rendez-vous au centre-ville à Montréal, à l'hôpital général. Ça dépend.
Ouais. Mais dans ce cas-là, bon, je présume que c'est assez simple. L'accompagnement dure le temps du rendez-vous. Mais disons pour courrier, épicerie, lecture, peut-être d'un bouquin pour désennuyer, ça, c'est plus difficile peut-être.
C'est pas plus difficile, c'est qu'il y a des coûts qui sont associés à cet accompagnement-là à domicile. Alors, pour nos membres qui sont non-voyants, malvoyants, c'est quand on fait du transport, c'est 10 $ aller, 10 $ retour, mais quand on fait de l'accompagnement, c'est 12 $ de l'heure à la maison, la première demi-heure étant gratuite. Alors, okay. Tout devient une question à ce moment-là de budget du membre.
Et je lis qu'il y a une fondation,
oui.
En plus des subventions gouvernementales.
Oui.
Quel est le pourcentage des frais défrayés par l'un et par l'autre?
Bien, disons que si je prends l'an dernier, par exemple, ce qu'on a reçu de l'Agence de santé de Montréal et de la Montérégie, ça équivaut à 43 % du budget. Alors, le reste vient des contrats les CIT, contrats d'intégration au travail pour nos répartiteurs. Et ensuite, on a des revenus qui nous viennent du bingo. Et souvent, presque tous les ans, on est déficitaire. Alors, c'est là que la Fondation Le Bon Pilote joue un rôle primordial.
Je ne sais pas si on a ces chiffres-là, mais l'usager va défrayer quel pourcentage du coût annuel de l'organisme?
Ouf, je vous dirais à peine 15 %.
Ah oui?
À peine 15
%. OK.
Le service est plus souvent qu'autrement déficitaire. Il ne faut pas oublier que nos accompagnateurs ne sont pas des bénévoles, mais ce sont des travailleurs autonomes.
Ouais. Est-ce que, justement, cette obligation faute de moyens, du 12 $ l'heure pour l'accompagnement, surtout là, je pense, maison et plutôt, disons, émotionnel et autonome. Est-ce que ça fait sourciller pendant un certain temps, puis ensuite, bon, ben on s'y est fait ou...
Écoutez, on fait des exceptions. Y a des gens qui n'ont pas les moyens. Alors, on le prend cas par cas. On parle avec l'intervenant au CLSC ou encore l'intervenant à l'INLB ou au MAB Mackay. Et on peut faire des exceptions selon les besoins de la personne et on fait des ajustements. Mais l'objectif, c'est de vraiment venir en aide un maximum. On est conscient du fait qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de nos membres sont démunis. Alors, on fait des exceptions. Ouais.
Vous avez combien d'accompagnateurs de disponibles?
On a 5 accompagnateurs et on est en phase de recrutement en ce moment.
5 à 10 accompagnements par jour presque, si je me fie à 3 500.
Oui.
Ça fait des bonnes journées pour ces gens-là quand même.
Ça fait des journées très difficiles.
D'où le recrutement.
D'où le recrutement, mais tous nos accompagnateurs, il y en a peut-être 2 sur 5 qui travaillent 5 jours semaine. Les autres font 1 ou 2 journées semaine.
La difficulté avec un CIT peut-être être au chapitre de la personne n'a plus son CIT, donc elle va peut-être plus travailler ou bien elle a un CIT pour une certaine période. Ou est-ce que ça peut jouer contre un employé?
Écoutez, les CIT, ça nous aide, mais ce qui est important, c'est la qualité des services offerts par le bon pilote. Et même si le CIT prend fin, l'objectif, c'est surtout de garder des gens qui aiment leur travail, qui font un bon travail.
Ils ont été formés, ils ont développé des liens.
Alors, le CIT nous aide, mais à la perte du CIT, il va sans dire qu'on va tout faire pour garder nos gens.
Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la formule CIT, normalement, à chaque année, c'est un programme qui permet à l'employeur d'avoir des subventions pour compenser peut-être ce qui est considéré comme un risque de travail plus lent. Et ce risque-là est diminué à chaque année. Donc, si le gouvernement paie 55 % la deuxième année, il va peut-être payer 45 % et est-ce que dans le recrutement que vous faites, vous exigez que quelqu'un soit éligible à la...
Pas du tout.
Non, OK.
Non. Ça nous a été proposé. On est approché par des gens qui nous le proposent. Mais certes, la direction générale et le conseil d'administration, l'objectif, c'est de ne pas focaliser uniquement sur les CIT.
Ouais.
C'est sur la qualité des gens, vraiment.
Je termine en parlant des membres ou peut-être des nouveaux membres. Mm-hmm. Donc, je comprends qu'on doit aller chercher... un assentiment de quelqu'un du secteur santé publique?
Un professionnel de la santé, du CLSC, son médecin. Les membres nous sont surtout référés par l'INLB et la MAB Mackay.
Mm-hmm.
Alors, il y a un formulaire à compléter, mais ça doit être complété par un professionnel de la santé.
Vous êtes comme pris entre deux feux parce que ce qu'on souhaite, c'est que notre service soit de plus en plus connu, de plus en plus populaire parce qu'on veut faire une différence. De l'autre côté, chaque personne qui s'ajoute implique
des coûts additionnels.
Des coûts. Mm-hmm. Donc, comment on se situe là-dedans?
Ben, écoutez, en 2011, on avait 150 membres, on en a plus de 500.
C'est énorme.
Oui, ça semble pas beaucoup, 500 membres, mais c'est triplé le nombre de membres. Et on a eu jusqu'à 7 accompagnateurs. Alors, ça a eu un danger d'implosion, disons. Alors, il a fallu faire des ajustements. Mais là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir offrir nos services à un plus grand nombre de personnes. Et de là, l'importance de la fondation qui va nous aider à donner des services à un plus grand nombre de personnes.
Plus de détails sur lebonpilote.org. John Gill, merci beaucoup.
Merci à vous.
John, qui est directeur de l'organisme Le Bon Pilote. Tiens, on écoute les deux vieilles qui marchent ensemble bien heureuses et on accueille Claudia Larochelle tout de suite après Clémence.
L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes manies, de tes caprices? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons, où je fredonne un air ancien. Cet été, je ferai un jardin. L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous de vieilles amantes, descendant lentement le temps, et qui s'arrête de temps en temps? Tu cherches long, moi le soleil. Les gens diront, voyez les vieilles qui sont ensemble depuis toujours et qui mourront le même jour. L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui sont ensemble depuis toujours, qui partiront, le même jour.
Clémence Desrochers avec les deux vieilles. Claudia La Rochelle, merci beaucoup d'avoir accepté la demande de Vues et Voix, de porter le message. C'est gentil.
Bonjour Luc, merci. Merci de m'inviter. Puis, ben, merci de me faire confiance. C'est pour moi un engagement tout naturel et normal que la lecture soit accessible partout pour tout le monde. Et ça, ça fait partie comme de la mission des dernières années qui m'est arrivée, et puis une mission que je veux porter le plus possible.
J'ai lu, et vous me direz si je me trompe, parce que j'ai lu beaucoup d'affaires sur beaucoup d'entrevues, mais il me semble que c'est 2 ans minimum?
Deux ans, oui. Okay. Oui, c'est ça, c'est 2 ans minimum.
Parfait.
Oui. Une implication comme ça, c'est 2 ans minimum, à moins que je me fasse arrêter par la police.
Oui, OK, il y a des clauses où Vues et Voix peut se dissocier de...
Non, je blague. Je ferai pas de mauvais coups. Quand même, généralement, une bonne fille respectable. Donc, je pense que je ne décevrai pas. Je vais essayer de transporter ça le plus possible
loin. Vous êtes maman.
Oui,
vous
oui,
vous êtes auteur.
Oui, oui. Ouais.
Vous êtes animatrice d'un show littéraire à Art TV.
C'est ça.
Donc, c'était un naturel.
Ben oui, parce que on dit. Ça s'est vraiment succédé, là, toutes ces aventures-là dans ma vie, dans le sens que moi, ben, depuis toujours, la lecture, c'est sérieux, je me souviens pas de ne jamais avoir lu. Il me semble que je lis depuis toujours.
Le premier livre marquant, Claudia?
Ah, le premier livre marquant. Mais je pense que j'ai vraiment eu, c'est super quétaine, mais j'ai vraiment eu un faible pour les Martines depuis toute jeune. Mais très rapidement...
Mais ça marque, ça, Martine?
Oui, ça marque. Okay. C'est nono un peu. Mais ça ne m'a pas suffi. Mm. Très vite, il fallait que j'aille chercher autre chose, un autre contenu. La lecture, de toute façon, peu importe ce que c'est, l'essentiel, c'est que ça nous fasse voyager, que ça nous sorte de notre quotidien, de ma petite rue, ma petite vie de banlieue où j'étais à Sainte-Julie. J'avais besoin d'aller plus loin, de voir plus grand. Et ça, le livre me permettait ça. Mmh. C'est pour ça que pour moi, c'est important que les gens lisent beaucoup. Tout le monde, que tout le monde ait droit à ça, à ces voyages-là qui coûtent presque rien, puis qui permettent aussi de se sortir des fois d'une vie qui peut sembler morose ou un peu terne. C'est ça que permet la lecture, les histoires, de nous faire voyager. Donc, c'était naturel pour moi, vues et voix, parce que depuis toujours, c'est ce que j'aime faire, lire et promulguer la lecture, soit à travers l'émission Lire, le club de lecture de Marina, l'émission Marina à Radio-Canada. Je fais ça maintenant. Sur avenue.ca, je parle de livres. Et avec ma fille aussi. Lire, on fait ça tous les soirs, c'est une routine. Bon, vous allez me dire, plusieurs personnes font ça.
Non, mais
effectivement, mais pour moi, c'est une religion. Ah ouais. C'est sacré.
Alors, voilà ma question crapaude, que j'ai déjà... En fait, c'est pas une question, mais j'ai déjà souvent passé le message, mais ça n'a pas fonctionné.
Oui, quoi?
Pensez-vous que ce serait possible de tordre un bras du réalisateur ou de la réalisatrice à la télé pour que chaque semaine, il y ait au moins un livre audio qui soit abordé.
Ah, ça serait le fun.
Parce que moi, là, je n'écoute jamais ni le show de Marie-Louise Arsenault, ni aucun show, parce que les livres, je le sais que je ne les aurai pas avant l'an prochain. Je risque d'avoir oublié le titre. C'est plus agace intellectuel qu'autre chose.
J'avoue, c'est vraiment plate parce que en fait, les livres qui sont ici disponibles, c'est des livres dont il a été question un peu dans le passé, puis le délai est trop long avant qu'on puisse y avoir accès. Donc, vous pouvez pas bénéficier de...
C'est ça. Mais en même temps, je dis pas qu'on fasse 10 minutes là-dessus. Puis ça peut être même juste des livres commerciaux qui sont peut-être pas en Daisy, mais qu'on peut au moins aller se chercher.
Ah oui.
Puis en même temps, on le sait, de plus en plus de gens écoutent ça dans la voiture.
Oui.
Mais
oui, moi-même,
j'aimerais ça que... Parce que ça, là, Claudia, ça ferait en sorte que vous seriez même plus obligé d'aller à Tout le monde en parle pour en parler, parce que ce serait partout. Ouais. Si tous les chroniqueurs littéraires y pensaient, ce serait... rendu une norme.
Faudrait que ce soit comme un... Oui, faudrait maintenant que ce soit un naturel, qu'on dise aux gens, OK, on accorde quelques minutes à une nouveauté audio qui est disponible et ouverte à tous. Moi, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est sûr que je vais faire tout ce qui est en mon possible. D'ailleurs, en commençant à en parler dans les médias de Vues et Voix, en faisant connaître cette mission-là, oui, j'espère que je vais passer le message. Ça, je vous en fais la promesse, je vais passer ce message-là. Et ce serait vraiment important. La seule chose, puis ça, c'est vraiment mon cheval de bataille aussi, c'est que le temps d'antenne accordé à la littérature en général diminue.
Ouais.
Et malheureusement, puis c'est un drôle de paradoxe, il se publie vraiment pas moins de livres. Au contraire, il y a de plus en plus d'éditeurs. Il y en a beaucoup d'éditeurs, là, actuellement. Il y a beaucoup de livres qui se publient et le temps d'antenne, pour tout ce qui est toute la culture en général est diminuée. Et il y a des médias ferment, les journaux rapetissent, le contenu est vraiment moins important qu'il était pour la littérature. Et ça, c'est vraiment un cheval de bataille. Donc,
Est-ce qu'on achète autant?
Non, il y a quand même eu des baisses. Il y a eu des baisses. C'est pour ça que on est arrivé à un moment donné avec la journée, cette journée où on achète un livre québécois au mois d'août.
Ouais.
Oui. Puis en librairie, ça a fonctionné. On a vraiment noté une augmentation des achats de livres québécois cette journée-là. Mais par la suite, les gens recommencent avec leurs habitudes.
Ouais.
Bon, peut-être avec le souvenir d'avoir découvert des auteurs, heureusement, cette journée-là. Ouais.
Parlez-moi de l'écriture de Claudia Larochelle.
Ouais. De mon écriture.
Oui, comment vous. Si vous aviez à critiquer, analyser...
Oui. Ah, mon écriture, ben, je commencerais par dire que l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour moi, qui est une... c'est vital, dans le sens que J'ai l'impression que c'est comme un moment où je me dépose dans mon bureau, dans ma salle de travail, dans ma maison, pour réfléchir à toutes sortes de questions qui, oui, sont de l'ordre de l'intime, mais qui dépassent l'intime, qui dépassent le ton de la confession, pour des fois évoquer des problèmes sociaux ou du moins faire des clins d'œil à des grandes questions, comme le livre qui va sortir bientôt sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcan. C'était une amie, mais c'était avant tout une grande écrivaine québécoise marquante qui s'est enlevée la vie, donc pour qui la vie n'était pas facile et qui avait, c'est certain, des troubles, une maladie qui affectait son mental et ses émotions. Donc moi, je pense qu'à travers ce livre-là, au moins, il y a peut-être aussi des petites lumières qui vont s'allumer un peu partout, ne serait-ce que pour retourner vers ses œuvres ou pour peut-être jeter un coup d'œil autour de soi pour voir s'il y a des gens qui vivent avec des troubles ou avec des manques émotifs. Oui.
Vous avez entendu partiellement un de vos livres une fois enregistré.
Ah, quel moment!
Ça fait quoi de surtout lu par quelqu'un d'autre, avec ses émotions, avec sa ponctuation?
Ah, j'ai tellement apprécié, j'ai tellement aimé ça. Ça a été... d'abord, je m'y attendais pas, puis c'est un beau cadeau. Là. Il est toujours dans ma voiture, d'ailleurs. Et puis tout de suite en sortant d'ici, de vos bureaux, j'ai écouté ça dans ma voiture. Et
lequel, les îles Canaries?
Oui, les îles Canaries, okay. Vol 459 chez VLB, paru l'an dernier. Puis la demoiselle, j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui faisait la lecture de la bénévole, donc qui faisait la lecture de mon livre, elle a exactement la voix que j'imaginais pour la narratrice de mon livre. Donc, puis elle le faisait d'une manière là, impeccable. C'est important, ça aussi. Mm-hmm. Ça pouvait pas être un homme pour ce genre de texte-là. Ça pouvait pas être une dame âgée ou une jeune fille. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui avait, en quelque sorte, un peu ma voix, mon ton, puis qui savait très bien rendre les émotions. Donc, en plus, les bénévoles qui sont ici chez Vues et Voix font un travail admirable. Oui, c'est des passionnés qui donnent leur temps puis qui aiment vraiment lire, mais en plus, ils ont ce talent de faire la lecture aux autres. Puis c'est un talent, là. C'est pas tout le monde qui peut le faire, mais ils le font très bien. Donc, je me dis, ah, ça, c'est formidable.
Quand vous l'avez fait, avez-vous senti que vous aviez ce talent-là? Parce que vous avez fait, quoi, 3-4 sessions, là, dans une cabine?
Oui, c'est ça, oui, pour un livre jeunesse. Mm-hmm. J'ai tellement aimé ça parce que je pense que la lecture, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, je l'ai dit pour ma fille au quotidien, je lis non seulement à voix haute, mais je lis dans ma vie au moins 2 à 3 romans ou livres variés par semaine, en plus de l'actualité, puis des nouvelles, puis des revues. Donc, pour moi, la lecture, c'est vraiment mon hygiène de vie, ça fait partie de ma vie. Donc, je me disais, je dois bien, avec des cours, moi, j'ai fait du théâtre dans ma vie, j'ai fait des communications énormément, c'est mon métier aussi d'être une communicatrice. Donc, je me dis, ah, je dois pas m'en sortir si mal, ça devrait être correct. Mm-hmm. Et puis j'ai bénéficié des conseils ici, puis de l'écoute, puis du travail des pros aussi.
Avez-vous entendu le produit fini?
Par petite partie, mais pas fini, non, pas dans l'entier, là, non.
Est-ce que c'était, je sais pas moi, de prendre et de lire à voix haute la ponctuation d'un autre, pas juste pour sa fille, là, mais pour un public... C'était comment?
Ce qui est le plus difficile, je dirais... En fait, bon, d'abord, c'est très excitant de le faire. C'est très excitant, puis on veut le faire bien. Ouais. Parce que moi aussi, comme écrivaine, je sais l'importance que ça a. Après,
c'est... Ça, c'est intéressant.
Non, mais c'est vrai. Oui, je suis écrivaine, mais je veux que mon livre soit bien lu dans la vie. T'sais, je veux dire, je veux que mes mots soient bien portés par quelqu'un.
J'ai toujours dit que le lecteur, c'est 60 % du plaisir, puis l'auteur, c'est 40 % malheureusement. Un bon lecteur va racheter un auteur moyen, et l'inverse est vrai.
Tellement vrai, ouais. Là. La voix, l'intonation, c'est tellement important. Le plus grand défi, je dirais, c'est que, bon, le livre, on l'a souvent jamais lu. Puis quand on le lit, ben parfois, il faut comprendre l'histoire en le lisant. Donc, le cerveau, il faut qu'il se dédouble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est un immense défi quand on fait de la lecture à haute voix.
Mais sachez que nous, là, quand on est sur notre petite chaise ou notre balcon, on fait un. Avec tout ça, avec cet univers-là, c'est comme si, lorsque Franck Freluche entrait dans son grand livre, c'est comme si on est aspiré là-dedans, justement, par l'ambiance, surtout qu'on l'écoute souvent avec un casque d'écoute, du moins pour moi.
Ouais.
Claudia, vous avez 2 ans minimum, si vous n'êtes pas trop tannante, alors on va sûrement se recroiser. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci Rémi, merci Anne-Laure, puis on se retrouve plus tard pour Accès libre. Ciao.